Salutone.
Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Saluton al ciui. Bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre entretien avec Didier Balesta. Ce dernier nous racontait l'expérience qu'il a menée pendant une douzaine d'années avec l'aide de Jacques Ravary, qui était alors secrétaire de notre association. Enseigner l'espéranto à ses élèves du CE1 de l'école primaire de Limeira.
Et vous aviez également produit des documents écrits avec oui. Des textes, des dessins.
Oui.
Vous avez fait des imagiers.
Oui, disons qu'on suivait un petit peu la progression et de manière à ce que les enfants gardent une trace. Les leçons étaient consignées dans un cahier et il y avait effectivement, je faisais des illustrations qui pour égayer ces leçons.
D'accord. Et tout ça, c'était pendant le temps scolaire.
Oui, c'est ça. Ce qui était exceptionnel, c'est que notre inspectrice avait demandé à ce que ça soit sur le temps scolaire au même titre que juste après, c'est-à-dire que dans la classe de Josiane, après, ils apprenaient l'anglais. C'était sur le même temps d'apprentissage.
D'accord. Donc en CE1, l'espéranto,
voilà.
Et en CE2, l'anglais.
À partir du CE2, CM1, CM2.
D'accord. Donc l'espéranto faisait valoir ses vertus propédeutiques. L'espéranto a joué le rôle de préparation à l'anglais.
En somme, oui, disons d'ouverture non pas à l'anglais, mais à une autre langue. En l'occurrence, hélas, l'anglais. Enfin, hélas, je dirais, parce que oui. pourquoi l'anglais et pas un autre choix, hein. Je veux dire, je n'ai rien contre l'anglais, mais je trouve qu'il est dommage d'enfermer l'enfant dans une langue. Et c'est là que j'ai fait de tous les possibles, certainement. Et donc, il est quand même regrettable que l'éducation nationale ne propose pas une amplitude supérieure au niveau des langues à l'école élémentaire. Ce n'est pas parce qu'au collège de Tenon, il n'y a pas d'espagnol, par exemple, en première langue, que l'enfant n'a pas droit à une petite initiation en espagnol, à l'allemand, etc.
Mmh, bien sûr. Et comment cette expérience s'est-elle terminée ?
Alors ça s'est terminé un petit peu mort de sa belle mort dans la mesure où on était quand même dans l'illégalité puisque cette expérience n'avait été rendue possible que parce que, comme je le disais, notre inspectrice était atypique. C'était une femme qui était libre dans sa tête, qui était capable de prendre des initiatives qui n'étaient pas tenues par des carcans. Or, très peu de personnel de direction sont capables d'être libres. Sont en général des courroies de transmission de leur hiérarchie, et ils se considèrent vraiment comme des soldats. Bon, est arrivée ensuite une inspectrice qui, elle, était loin d'être libre, et donc il a fallu arrêter.
Mmh. Voilà. Hélas, malheureusement.
Voilà.
Mais donc, combien de...
Alors pourquoi tout simplement, ce n'est pas parce que l'espéranto est interdit. Mais c'est parce que l'espéranto n'est pas autorisé. C'est-à-dire que on ne peut proposer une initiation à des langues que sur les langues qui sont prévues dans une liste précise dont est exclu l'espéranto. Voilà. Ce qui n'est pas trop étonnant puisque l'espéranto n'est pas à mon avis, une langue au sens strict, mais plutôt un outil de communication. C'est-à-dire que l'espéranto ne s'appuie pas sur un état-nation, sur un groupe ethnique ou autre, mais c'est autre chose. On est dans une langue internationale, anationale,
qui est faite pour communiquer,
à mon avis, n'est pas trop faite, par exemple, pour la poésie ou pour les choses comme ça, qui est plus faite pour la communication, pour échanger, quoi.
D'accord. On en revient quand même à la non-reconnaissance officielle de l'espéranto par l'État français, par l'éducation nationale,
voilà,
et par l'État français.
Voilà, c'est ça. Il y a un veto de fait, mais simplement par la non-reconnaissance. Cette non-reconnaissance empêche toute initiative réelle et toute progression de cette langue parce que notre administration, quoi, se refuse tout simplement à la reconnaître.
D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cet exposé très clair. Et on demandera de son côté à Jacques s'il a ce qu'il doit ajouter.
Oui, je pense. Je pense que Jacques rajoutera des choses intéressantes parce que j'ai dû oublier beaucoup de choses.
Ne gravas. Dankon.
Brésilien, vous interprétez Ho Mia Cor, Ho mon cœur. Nous commençons aujourd'hui le 14e chapitre de notre cours d'espéranto avec Dorothée et Pierre. Je vous rappelle que chaque chapitre est réparti sur 3 émissions. Tout d'abord le texte principal en espéranto, puis les passionnantes aventures de Carlo et Johannino, et enfin les exercices de thème.
Eh bien, saluton. Bonjour Dorothée.
Saluton Claude.
Bonjour Pierre.
Saluton Claude.
Nous commençons la 14e leçon du Yunul Curso, le cours pour les jeunes. Nous allons commencer ce cours par une difficulté grammaticale, le pronom personnel réfléchi. Pierre, bonvolulegi la unuan frason. Veux-tu lire la première phrase?
Vespere, Carlo lavassin.
Vespere, Carlo lavassin. Dorothée.
Le soir, Carlo se lave.
Carlo se lave. Très bien. Vespere, le soir, sous forme d'un adverbe. Lavassin, se lave. Donc, c'est le pronom personnel réfléchi que nous connaissons bien en français et qui peut poser un problème en espéranto, mais en fait, c'est la même règle pratiquement qu'en français. Carlo lavassin, Carlo se lave. Comment... Ça veut dire « Carlo lave lui-même », bien entendu. En français, on appelle ça un verbe pronominal. Et si on disait « Carlo lavas l'in », quelle signification cela aurait-il?
Ça aurait la signification qu'il lave quelqu'un d'autre.
Il lave quelqu'un d'autre, très bien. Il lave un autre homme. Lavas l'in. Si on dit « Carlo lavas shin », quelle serait la signification?
Qui lave quelqu'un d'autre qui est une femme.
Qui est une femme, qui est peut-être sa fille.
Hein. Voilà.
Il lave un de ses enfants. Lavas shin. Et si on disait Carlo lavas jean.
Il lave un truc.
Il lave un truc, il lave une chose, et ce truc peut être un animal.
Voilà.
Un animal, il peut laver son chien, par exemple. Donc, nous allons répéter. Si Charles se lave lui-même, sous-entendu, en français, on n'ajoute pas lui-même, on dit si Charles se lave. Carlo lavas sin.
Si.
On emploie donc le pronom personnel réfléchi si, qui s'écrit si, et on lui ajoute l'accusatif, le complément d'objet direct, traduit par ce n. Carlo lavas sin. Si Charles lave une autre personne, un homme, un de ses enfants, mettons son garçon. Carlo lavas lin. S'il lave sa fille, Carlo lavas
chin.
S'il lave son chien, Carlo lavas
gin.
Voilà, ces quatre phrases ont chacune leur signification et elle est bien entendu différente. Très bien. Alors, deuxième phrase, Dorothée.
Li lavis sian capon.
Li lavis sian capon.
Il lave sa tête.
Voilà.
Il a lavé sa tête.
Il a lavé sa tête. En français, on dirait plutôt s'est lavé la tête, puisqu'on utilise toujours ce verbe pronominal se laver, mais mot à mot, c'est la même action, bien entendu. Li lavis sian capon. Il a lavé sa tête. Et on va ajouter à lui. Le pronom personnel réfléchit et réfléchit sur le sujet du verbe. Donc, li lavas sian capon signifie il a lavé la tête du sujet. Le sujet, c'est li, sous-entendu ici, Carlo. Li lavis sian capon, il a lavé sa tête. Il s'est lavé la tête, c'est plus clair pour nous en français. Mot à mot, il a lavé sa tête, sous-entendu à lui.
Nun, li lavas sian corpon per malvarma agvo kaj sapo.
Yes, bonne. Dorothée, bonne volu traduki.
Maintenant, il lave son corps avec de l'eau et du savon.
Oui, malvarma. Agvo, de l'eau.
Avec de l'eau.
Le contraire de chaud.
Froid.
Tiède.
Froide.
Comment est-ce qu'on dit tiède alors?
Alors, malvarmeta ou bien varmeta. Donc on va reprendre l'ensemble de la phrase et je réponds ensuite plus précisément à Pierre. Nun li lavas sian corpon. Maintenant, il lave son corps.
Il lave le corps.
Si vous préférez, maintenant il se lave le corps. Mm-hmm. Per, c'est au moyen de. Il lave son corps au moyen de. Au moyen de quoi? Malvarma aquo. De l'eau froide. Alors pourquoi malvarma? Varma, c'est chaud. Malvarma, c'est froid. Si on veut dire tiède, c'est-à-dire légèrement chaud, nous allons dire varmeta, le diminutif de varma. Mm-hmm. Mais nous pouvons dire aussi de l'eau un petit peu fraîche, de l'eau légèrement froide, nous pouvons dire malvarmeta. Donc, Pierre, tiède, ça se dira plutôt varmeta, si on veut insister plutôt sur la...
L'aspect
chaud et malvarmeta, si on veut dire légèrement froid. Voilà une façon de considérer le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc, per malvarma agvo, avec de l'eau froide, kai sapo et du savon. Dorothée.
Poste li vichos sin per seca toaletuco. Kai li lavos sian dentoi per brosseto.
Bonne. Alors, on va répéter cela doucement. Poste li vichos sin. Pierre.
Après, il s'essuiera.
Très bien. Il s'essuiera. Vichi. Ça s'écrit V-I-S chapeau I. C'est bien le verbe essuyer. Après, il s'essuiera. Per seca. Toilette tuco.
Avec un linge de toilette ou une serviette de toilette sèche.
Très bien. Tuko, c'est bien un linge, comme tu l'as dit. Oui. Ça pourrait être tablo tuko, ou même bouche. Tablo tuko, ça serait une nappe. Mm-hmm. Bouche, ou bouche au tuko, serait une serviette de table. Sous-entendu, une serviette pour la bouche. Donc mm-hmm. nous disons plutôt une serviette de table. Mm-hmm. Et tualeto tuko, en un seul mot, veut dire serviette de toilette. Mm-hmm. Mais là, c'est écrit tualeto tuko. Et vous avez bien prononcé les deux T. Il y a le T de tualetto, avec l'élision du O, et le T de tuco, le linge. Donc, poste li vichossin per seca tualet tuco, kai li lavos siain dentoin.
Et après, il lavera ses dents, ou il se lavera les dents.
Très bien, per brossetto.
Avec une petite brosse.
Exactement, nous avons envie de dire une brosse à dents, mais dans le texte, il est écrit brossetto, c'est-à-dire une petite brosse. Brosso, une brosse. Brossetto, une petite brosse.
L'inirasos sin, car li ancora ne havas barbon.
Char, yes. L'inirasos sin, Pierre.
Il ne se rasera pas.
Yes. Charlie ancorau ne havas barbon.
Parce que ou car, et lui n'a pas encore de barbe.
Très bien. Charlie ancorau ne havas barbon. Bonne. Pierre, pour lire la suivante.
La hundo banassin en metala cuvo.
La hundo banassin.
Le chien se baigne.
En metala cuvo.
Ou dans une cuve en métal. Carlo kaj lia hundo faras sian tualeton.
Bone. Carlo kaj lia hundo.
Charles et son chien
faras sian tualeton.
Font leur toilette.
Donc sian tualeton, on voit que le pronom personnel réfléchit. Est également valable au pluriel. Donc, Carlo kaj lia hundo, on aurait pu remplacer tout cela par il au pluriel. Ili faras sian tualeton. Parce que ili faras ilian tualeton, ça voudrait dire ils font la toilette de quelqu'un d'autre.
Oui.
Par exemple, des parents qui lavent leurs enfants. Oui. Poste.
Johannino kombas siain haroin. Per brosso kaj kombilo.
Yes, tre bone. Johannino kombas siajn harojn.
Jean peigne ses cheveux avec une brosse.
Per brosso avec une brosse kaj kombilo.
Et une peigne.
Et un peigne. Kombilo estas ilo por kombi. Un peigne est un outil pour se peigner. Donc le verbe kombi, peigner. Ici, peigne ses cheveux, et kombilo, c'est l'outil pour cela. Kombilo est donc un peigne.
Ŝi rigardas siajn vizaĝon en la spegulo.
Alors, ŝi rigardas sian vizaĝon.
Elle se regarde le visage dans le miroir.
En la spegulo, dans le miroir. Très bien. Donc, elle regarde, mot à mot, elle regarde son visage, sous-entendu son visage à elle, son propre visage, en la spegulo, dans le miroir. Maintenant, si elle regardait le visage de son ami,
au masculin. She regardas lian visagion.
Alors, lian au singulier. Lian. She regardas lian visagion, ça serait donc le visage d'un ami masculin. Si rigardas shian visagion serait le visage
d'une autre fille.
Voilà, d'une autre fille, en tout cas pas elle-même. À qui de lire?
Si rubando couchas sur la table.
Si rubando.
Son ruban à elle.
Très bien. Couchas sur la table.
Et posée sur la table.
Et posée. On sait que les espérantistes aiment bien préciser le verbe être est souvent remplacé par couchi pour un objet qui est plutôt couché plein. Horizontalement. Stari pour un objet qui est érigé, qui est dressé. Donc, chi arrubando couchas sur la table. Très bien, son ruban est couché sur la table ou est posé sur la table.
Chia parfum botello staras sur la table.
Chia parfum botello.
Sa bouteille à parfum
staras sur la table.
Est posée sur la table ou est sur la table.
Oui, est sur la table ou est dressée sur la table. On voit encore la différence entre couchi et stari. Couchi, reposé plutôt horizontalement. Stari, être dressé, donc plutôt verticalement. Parfum botello, donc, est un mot composé. Le mot de base, c'est botello, bouteille. Une bouteille, pourquoi ? Qui contient du parfum, donc parfum botello.
La geknaboy ofte lavas sin.
Yes. La geknaboy.
Les jeunes gens.
Ofte lavas sin.
Se lavent souvent.
Yes. Donc, encore une fois, le pronom personnel réfléchi est ici employé à la troisième personne du pluriel. Donc, au singulier comme au pluriel, mais toujours pour la troisième personne. Alors maintenant, Charles et Jeanne nous montrent des objets qu'ils tiennent en main ou que leurs compagnons ou compagnes portent sur eux.
Oui.
Carlo, c'est Pierre qui va faire Carlo.
Carlo. Mi montras mian novan casquedon, kai si montras sian belan tulipon.
Très bien. Alors là, on va bien entendu préciser le possesseur de l'objet. Donc Carlo nous dit, mi montras mian novan casquedon. Dorothée.
Je montre ma nouvelle casquette.
Voilà. Kai si montras sian belan tulipon.
Et elle montre sa belle tulipe.
Voilà, sa belle tulipe, tu as très bien traduit. Sian renvoie au sujet du verbe montrer. Le sujet, c'est chi, c'est elle. Donc, c'est sa belle tulipe à elle.
À elle.
Donc, je reprends l'ensemble de la phrase. Mi montras mian novan casquedon, kai chi. Montras sian belan tulipon. Donc la casquette, c'est Charles qui la porte, mais la tulipe, c'est Jeanne qui la tient. Alors, à Johannino de parler.
Mi montras mian belan tulipon, kai li montras sian novan casquedon.
Très bonne.
Alors,
c'est donc Jeanne qui parle et c'est Pierre qui va la traduire. Mi montras mian belan tulipon.
Moi, je montre ma belle tulipe.
Kai li montras sian novan casquedon.
Et lui, il montre sa nouvelle casquette.
Alors, dans une deuxième image, c'est pas très visuel pour nos amis auditeurs, donc on va essayer d'être très, très précis dans la description. En la dua bildo.
Dans le deuxième... Image.
Dans la deuxième image, Carlo montras sian belan tulipon.
Mm-hmm. Carlo montre sa belle tulipe.
Sa belle tulipe à elle. Et donc il faut bien distinguer sian, qui est ici employé, qui désigne le possesseur qui est donc Jeanne.
Oui.
Le possesseur est féminin. Alors que si nous avions dit Carlo montras sian belan tulipon, ça voulait dire que c'était la tulipe de Charles.
Celle-là,
donc, ici, c'est bien celle de Jeanne. Carlo montras sian belan tulipon. Kai Johannino montras lian novan casquedon.
Et Jeanne montre sa nouvelle casquette à lui.
À lui, très bien, puisque montras quoi? Lian novan casquedon. Donc, sa nouvelle casquette à lui, c'est-à-dire à Charles. Voilà, hein, donc les index dans la deuxième image ne pointent pas comme dans la première image. Bon, donc là, nous avons vu en fait tous les cas d'application de ce pronom personnel réfléchi.
La hundo couche sur paello en sia dometo.
Yes. La hundo couchas sur paello.
Le chien est couché sur la paille.
En sia dometo.
Dans sa niche, mettons, sa petite maison.
Voilà, tout à fait. Alors, paello, c'est de la paille. Très bien, Pierre. Ça s'écrit P-A-J-L-O. Il n'y a donc que deux syllabes. Paille et puis l'eau. Donc, il faut dire paello. En sia dometo, bien entendu, c'est la niche qui est ici désignée sous forme d'une petite maison. Domo pour une maison, dometo pour une petite maison. Pour être encore plus précis, si on avait voulu dire niche du chien, hundo dometo, mais là, comme on parlait d'un chien, on était dans le contexte, dometo suffit parfaitement.
La cateto staras extere.
Bonne.
Le chat reste dehors, quoi.
Et debout dehors. Ouais. Et puis pourquoi cateto plutôt que cato?
Parce que c'est un petit chat.
C'est un petit chat.
Puis c'est mignon.
C'est pas un chaton.
Alors ça n'est pas un chaton.
Non.
Très bien. Comment aurait-on dit chaton? Le suffixe pour le descendant d'un animal.
Catido.
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 Ambau estas afablai bestoi.
Yes. C'est gentil dans cette maison.
L'une et l'autre sont des bêtes aimables.
Très bien. Ambau, effectivement, c'est tous les deux. Donc, pourquoi pas, l'une et l'autre sont des bêtes aimables. Tu as l'air d'en douter, Pierre.
Oui. Un chat, c'est pas toujours aimable.
Non. Bon. Celle de ma voisine la gratte jusqu'au sang.
Tu vi preferas hundoin au catoin? Préférez-vous les chiens ou les chats? Je vous laisse réfléchir à cette question jusqu'à la prochaine émission. À bientôt. Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis.